Monsieur Aristide Briand-Reboise, bonjour.
Bonjour, monsieur président.
L'accord de paix signé le 6 février 2019 à Duplomb dans l'Aisle, l'UPC, le MPC et les 3R posent des actes contraires à leur engagement. Quelle lecture faites-vous de ces agissements à quelques mois des élections?
C'est pas moi que ça étonne. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, car les groupes armés ont toujours été dans la rue pour gagner du temps. Et donc, les trois que vous avez cités ont tous des calendriers opposés dans la logique de conquête. À l'approche des élections, ils ont commencé des étrangers qui ont voulu venir soutenir, soi-disant, la cause de nos frères centrafricains de confession musulmane qui, à l'époque, leur avaient fait appel. Ils sont venus. Après, bon, ça c'était le bandit n'est plus leur objectif. Ils ont voulu se territorialiser. C'est la première mutation.
Vous avez parlé de la ruse des groupes armés, alors que sur 14 groupes armés signataires, il n'y a que 3 aujourd'hui qui s'agitent.
Non, le problème, c'est que j'ai dit que j'ai arrêté de dire qu'il y a 14 groupes armés. Il y avait eu 14 groupes armés sélectionnés. C'est-à-dire, c'est les meilleurs. Peut-être les meilleurs tueurs, je ne sais pas. Mais ceux qui ont été choisis, ils étaient au nombre de 14, justement, pour aller à l'accord de Khartoum. Au sortir de cet accord, il y en a qui n'ont pas été récompensés, il y en a qui ont été récompensés. Mais les 3 autres, comme les Al-Khati, les Sidiki Abbas, Ali Darak, ont un autre calendrier. Et donc, aujourd'hui, comme on dit que le linge se lave en famille, tous nos frères qui étaient dans le groupe aujourd'hui sont tous rangés du côté de la paix. Mais ceux-là qui reçoivent leur ordre de l'extérieur, ils ne peuvent pas. Si la paix venait à être effectif, c'est-à-dire que c'est une manière de leur demander de rentrer chez eux.
Ces faits interviennent dans un contexte où la Cour constitutionnelle déboute les députés de leur intention de modification partielle de la Constitution. Alors, que vous inspire cet avis des sages de la Cour constitutionnelle?
Je voudrais dire merci. Merci, parce que le droit a été dit. Et décidément, Madame Darlan et les autres juges rentrent dans l'histoire de notre pays et de la plus belle manière. Et ceci étant, je voudrais mettre en garde ceux qui pensent que c'est une victoire personnelle. C'est pas la victoire ni de l'opposition qu'il s'agit, ni la défaite du gouvernement. C'est la victoire du droit. Et c'est important que cela soit tranché. J'ai vu des analyses des constitutionnalistes avisés comme Monsieur Dominique Hérunon, comme Jean-François Akandi. J'avais apporté une critique positive pour dire que on n'était pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on voyait les choses. On pouvait régler ça autrement et on était aussi proche de l'avis de la Cour constitutionnelle. Cela n'a pas été suivi, mais à un moment donné, il était du ressort de la Cour constitutionnelle de trancher et de nous donner une piste favorable. Et c'est quand même très important, tout simplement parce que vous savez bien que les élections, c'est dans 6 mois. C'est-à-dire que quand on enlève les jours fériés, week-end, il nous reste moins de 120 jours pour aller aux élections. Alors, c'est vrai, et là, je vois l'hardiesse du gouvernement et la communauté internationale de vouloir organiser les élections dans les délais constitutionnels, que j'approuve, c'est normal. Mais il faudrait pas oublier qu'en 120 jours, ça risque d'être difficile et on risque d'avoir besoin de la Cour constitutionnelle et des constitutionnalistes pour nous aider effectivement à mettre en place un moyen de convergence de vue pour nous permettre d'aller dans une élection libre, transparente et apaisée.
Si je vous comprends bien, il y a des pesanteurs qui ne militent pas en faveur de l'organisation des élections en 120 jours, comme vous l'insinuez.
Mais vous savez bien que c'est clair. Je vous ai dit clairement que si vous faites le calcul comme moi, vous allez retrouver avec moins de 120 jours. Et là, je dis, 85% du territoire est encore menacé.
Mais pendant ce temps, le cadre de concertation entre en discussion avec les partenaires pour voir le cadre qui s'y est. Selon vous, s'il y a discussion autour du report, quels sont les points qui devaient être à l'ordre du jour?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Pour une fois, ces cadres de concertation ne sont pas des gens capables de nous proposer une solution. Parce que si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est aussi à cause de cette cadre de concertation. Mais il y a l'espoir. Je pense que l'opposition en général voulait un report. Le gouvernement aussi voulait coûte au coûte reculer les élections par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, ils ont dit tous qu'il fallait repousser un peu la date. Ouais, mais là, c'est plus difficile. Il suffit de trouver les moyens, d'abord, un, de trouver, recenser les faits qui devraient empêcher la bonne tenue des élections, c'est-à-dire la reprise du territoire, la reconquête, l'arrestation de ces seigneurs de guerre qui, naturellement, ont promis de nous empêcher de faire campagne librement. Et deuxièmement, question de recensement qui va commencer, ça va prendre un mois, le temps de corriger la liste et tout ça, et pour se mettre d'accord même sur les textes, parce que le Conseil d'État est saisi, on attend encore la suite. Il y a beaucoup de choses. Donc, les différents, on peut tout simplement les lisser par des moyens de droit. La dernière fois, on a eu une élection qui n'a pas été passée dans de bonnes conditions. L'élection législative à trois tours, presque, parce qu'on avait annulé, on a fait deux premiers tours et un deuxième tour. Et après, tous les candidats à l'époque s'est donné pour avis d'accepter le résultat. Quel que soit le résultat, on devrait seulement, on était tous engagés à accepter, parce qu'il était question de sortir de la transition qui est une situation constitutionnelle anormale et de mettre en place une constitution avec un président élu. Mais là, aujourd'hui, la transparence est le vœu de tout le monde, y compris la communauté nationale et internationale.
Vous vivez à Tours en France. Comment avez-vous vécu le confinement dans votre pays d'accueil?
Oui, bon, mais d'abord par accident. Je suis venu comme d'habitude dans mes allers-retours. J'ai eu la chance d'être aussi confiné avec la famille, mais heureusement, les neurones ne sont pas confinés. Vous voyez, je suis en santé et je vous parle. Mais ce que je voudrais dire, c'est juste pour une petite parenthèse de rire. Mais entre-temps, j'ai suivi le confinement ici n'a pas la même lourdeur que par exemple en Centrafrique, on comprend. Ici, quand tu es confiné, tu ne cherches pas de l'eau. Ce que je déplore en Afrique, nous avons voulu suivre exactement ce que les Blancs font. Et pourtant, eux, ils ont le moyen de leur politique. Ils ont confiné les gens quand il y avait 6000 cas. Et aujourd'hui, ils déconfinent parce que il y a plus de cas. Ils déconfinent et nous aussi, on déconfine avec plus de cas. Maintenant, on déconfine, on demande aux gens de repartir à l'école, on demande aux gens de reprendre l'église, sachant qu'il y a plus de cas. C'est à cette heure-ci que la RCA devrait commencer le confinement. Le confinement maintenant, alors que c'est maintenant qu'il y a plus de cas.
Ok. Les médecins en Centrafrique ici sont en première ligne de la lutte contre la COVID-19, alors que sur le plan social, ils sont porteurs de plusieurs revendications, dont leur protection. Comprenez-vous cette sortie?
En Europe aussi, il y a eu ces cas, mais entre-temps, je voudrais aussi rendre hommage à ces médecins. Vous voyez, c'est ceux-là qui ont fini les 7 ans d'études bien soutenus et qui sont mal payés. Ils ne sont pas bien traités. Il n'y a pas de budget pour les recherches. Ils sont là au contact avec la souffrance et que avec plusieurs possibilités de contaminer, de prendre le virus et aussi de contaminer leur famille. Je pense que c'est l'occasion pour eux de tirer la sonnette d'alarme. On a parlé des groupes armés qui sont des fils bien-aimés de la République depuis un certain temps, depuis l'accord de Libreville. Les groupes armés, quand ils toussent un peu, l'État se met en ordre de bataille pour satisfaire même les désirs les plus délirants. Vous voyez? Et donc, les médecins, naturellement, méritent l'attention. Et s'il y a des choses, il faudrait commencer pour se sauver, pour sauver les gens, il faudrait quand même se mettre à l'abri.
Monsieur Aristide Briand-Reboise, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur Kouine.